each other, or we must die.
16 octobre 1964. Depuis aujourd'hui, me voici aussi chinoise. USA, 1945. URSS, 1949. Royaume-Uni, 1952. France, 1960.
Dites, Leclerc, vous savez que la bombe atomique a explosé ce matin?
J'en ai entendu causer vaguement. Espérons que le résultat a peut-être fait boum, puisqu'on n'est pas plus bête que les autres.
Madame, s'il vous plaît, quelle impression ça vous a fait d'apprendre cette nouvelle?
C'est très bien, mon Dieu, on fait comme les autres.
Bienvenue au Club des Cinq. Je ne sais plus quelle langue parler. Après le 9 août 45, je pensais qu'on allait me laisser en paix. Mais non. Je dois courir d'un continent à l'autre. On me réclame jusqu'en Afrique du Sud. Pretoria, c'est loin. C'est épuisant. Cette course à la toute-puissance, il faudrait leur faire comprendre à toutes ces forces qu'à passer d'une main à l'autre, un jour, l'une d'elles va perdre le contrôle. Et là, je ne réponds de rien. Vivre avec 5 parents qui se supportent à peine, cela n'a rien d'une sinécure. J'ai 19 ans, l'âge de raison. Mais eux, je les trouve franchement immatures.
Quand vous êtes membre d'un club, vous n'avez pas envie que d'autres s'y mettent. Vous êtes l'Amérique, vous n'avez pas envie que l'Union soviétique ait la bombe. Quand l'Union soviétique a la bombe, les États-Unis et l'Union soviétique partagent un intérêt commun qui est d'éviter que d'autres aient la bombe. Quand les Britanniques finissent par avoir la bombe, que les Français montrent le bout du nez, les Américains ne sont pas contents. Quand ils voient que les Britanniques finissent par y arriver sans eux, ils vont aider les Britanniques afin de les mettre dans leur camp. Pendant les années 50-60, la bombe était vraiment vue comme un élément, un facteur de prestige et de statut.
C'est le statut de pouvoir détruire le monde, de pouvoir vraiment faire énormément de dégâts, d'avoir cette puissance apocalyptique pour avoir une mesure énorme de pouvoir géopolitique. Et puis, bien sûr, c'était le symbolique de nucléaire, c'était la modernité, c'était la technicité, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de plus prestigieux.
Il existe cette peur. Plus le nombre de pays dotés de la puissance nucléaire est élevé, plus il y a de doigts sur le bouton. Et plus le risque d'une guerre, d'un malentendu, d'un accident augmente.
En 63, la date est importante, début 63, John F. Kennedy, président des États-Unis, fait une conférence de presse mémorable en disant que si ça continue comme ça, d'ici la fin de la décennie, donc d'ici 1970, il allait y avoir 10 à 15 puissances nucléaires et dans le quart de siècle, probablement de l'ordre de 30 à 40.
Journal de la bombe, une vie atomique. Le nucléaire au risque de la prolifération. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
Je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958. Ich verklare die Weltausstellung von Brüssel 1958 wird geöffnet.
Moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vu à l'exposition universelle de Bruxelles en 58. Quand vous allez à Bruxelles, vous voyez ce monument-là, qui s'appelle l'atomium, qui est un atome de fer, c'était l'ère de l'acier à l'époque.
François Hesbourg.
C'était les merveilles de l'atome civil. Les voitures à propulsion nucléaire, les cuisines à chauffage nucléaire. C'était totalement surréaliste. Donc on vivait dans un monde où on était menacé par un holocauste nucléaire, mais où on allait utiliser le nucléaire dans la vie de tous les jours. Les deux choses étaient évidemment très difficilement conciliables, et cela se retrouvait, bien sûr, aussi à l'échelle des décisions politiques. Au début des années 50, vous avez le général Eisenhower et Khrushchev qui se mettent d'accord pour lancer, l'initiative étant au départ américaine, ce qu'on appelait les Atomes pour la paix, Atoms for Peace. Donc on allait faire bénéficier la Terre entière des bienfaits de l'atome.
Peace and Moscow. The two words are associated in the minds of progressive people everywhere. From Moscow came the good news in 1954 that the first atomic power plant in the world had begun operating in the Soviet Union. Its creation was a new triumph for the great ideas of peace and friendship between the nations.
Et donc l'idée alors, c'est de promouvoir un programme atomique pour la paix,
Sébastien Philippe,
où en échange de la promesse qu'on ne développera pas des armes, on va apporter l'aide technologique pour pouvoir construire des réacteurs de recherche pour la médecine nucléaire, pour potentiellement ensuite construire des réacteurs pour la production d'électricité. Ce que les États-Unis proposent, c'est ne développez pas d'armes nucléaires et on vous assiste dans le développement de technologies civiles. Cette promesse-là, elle est très attractive pour beaucoup de pays et donc ils choisissent de la poursuivre. Il y a une deuxième chose que les États-Unis font aussi. Ils proposent à certains pays, notamment les pays alliés, ce qu'on appellera le parapluie nucléaire. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de construire des armes nucléaires parce que nous, les États-Unis, nous allons les construire et nous allons en stationner certaines dans vos pays et on vous protégera. C'est le maintien, on va dire, du monopole de cette technologie-là et d'empêcher les autres pays d'être capable d'accéder à cette technologie de production de matières fissiles pour les armes qui est au cœur de la politique de non-prolifération des États-Unis pendant la seconde moitié du XXe siècle et encore aujourd'hui.
Les technologies sont très proches jusqu'à la militarisation, jusqu'à ce qu'on conçoive l'arme. Et en particulier, ce qui va être commun pour les deux types d'activités, c'est la constitution de la matière fissile.
Emmanuel Maître.
L'enrichissement de l'uranium en particulier, qui est nécessaire pour fabriquer une arme. Mais le début du processus, les outils, les sites, les usines, etc. sont similaires.
Constitue the components of the new age of power. Power from the nucleus of the atom.
Atoms for Peace a été une formidable machine à accoutumer toutes sortes de pays à la recherche de l'atome militaire. Ce n'était pas le but recherché. Mais quand l'Afrique du Sud acquiert des armes nucléaires du temps du régime d'apartheid, elle le fait parce qu'elle a appris comment faire nucléaire. Lorsque l'Iran commence un programme nucléaire militaire, c'est à partir du réacteur livré par les Américains 25 ans plus tôt. Pareil pour la Corée du Nord, qui, elle, avait bénéficié d'un réacteur soviétique. Les Soviétiques ne voulaient pas que la Corée du Nord ait la bombe, mais la meilleure façon pour que la Corée du Nord ait la bombe, c'est qu'elle apprenne à travailler sur les questions nucléaires à partir des réacteurs de recherche civile. Donc oui, on était en plein paradoxe. Rétrospectivement, les Atomes pour la paix, ce programme qui était fait pour convaincre les gens qu'il fallait faire du nucléaire civil parce que c'était bon, et comme ça il n'y avait pas besoin de faire du nucléaire militaire, ça marchait complètement dans l'autre sens.
This is different. Nuclear power for a new technology. Nuclear power. This is different. Nuclear power for a new technology. Nuclear power.
Au moment où Eisenhower fait son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1953, elle est intitulée « Atoms for Peace », mais aucun réacteur de production d'électricité ne tournera aux États-Unis avant le milieu des années 60. Aucun réacteur civil ne fonctionnait aux États-Unis quand Eisenhower a quitté la Maison-Blanche en 61.
Yves Lenoir.
Le développement de l'atome a été exclusivement militaire pour la propulsion marine et pour les bombes. Alors les Russes ont fait un réacteur, entre guillemets, une petite démonstration civile à Obninsk en 54, mais c'était vraiment 5 mégawatts avec un truc bricolé, d'ailleurs, qui polluait beaucoup. C'était uniquement pour dire, nous, on est les premiers. Mais ils ont aussi assez tardé avant de faire des réacteurs de production d'électricité. Au milieu des années 50, on a promu le nucléaire à grand renfort de conférences, d'expositions, de promesses mirobolantes et mirifiques. La bombe nous a fait du mal, mais l'atome maintenant va nous faire du bien. C'était une rêverie, quoi. C'était une rêverie partagée, que l'énergie atomique allait se développer très vite. Ben non, ça a été beaucoup plus long.
On man's wisdom, on his firmness in the use of that power, depends now the future of his children and his children's children. In the new world of the atomic age.
Gabriel Hecht.
La division entre le civil et le militaire est floue. Donc, par exemple, en Inde, l'Inde a acheté un réacteur du Canada qui, en principe, était un prototype pour un réacteur produisant de l'électricité, mais en fait, qui était optimisé pour produire du plutonium militaire. Après, les Canadiens se sont rendus compte, ils ont dit non, mais c'était trop tard, quoi. Donc, c'est à travers ces mécanismes-là. Par exemple, on dit qu'on va acheter, on va enrichir de l'uranium, donc on achète tout un équipement pour l'usine d'enrichissement. Et après, la même usine peut servir à enrichir l'uranium pour faire de l'uranium militaire. Donc c'est ça en fait ce que je dis, c'est que ce flou entre le militaire et le civil, ça sert à énormément de monde en fait. Parce que c'est la façon dont ces pays peuvent se procurer la bombe atomique.
Si les grilles de Marcoule se sont à nouveau ouvertes pour quelques heures aux caméras de la télévision, c'est que G1, pour la première fois en Europe occidentale et continentale, vient de produire de l'électricité d'origine nucléaire. Marcoule dans le Gard, à 10 km à vol d'oiseau d'Orange, n'est-elle pas la plus grande réalisation industrielle de la vallée du Rhône? 50 milliards pour parler chiffres.
1956.
Et G1, on l'approche avec un certain respect, vous l'avez vu, et pour cause, 100 tonnes d'uranium divisées en plus de 2000 bars y sont soumises à la mystérieuse alchimie de la réaction en chaîne.
La France disait qu'elle faisait du nucléaire seulement pour l'électricité, et en fait, même les premiers réacteurs... Alors, on a parlé des réacteurs de Marcoule qui étaient complètement optimisés pour le plutonium militaire, bien qu'on disait que c'était des prototypes pour du nucléaire civil. Ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, EDF a construit 3 réacteurs qui, oui, étaient des producteurs d'électricité. Mais comme c'était la même technique, il y a eu des moments où certains de ces réacteurs à Chinon ont aussi produit du plutonium militaire. Et ça, c'était vraiment en cachette. Donc, il y avait ce flou, je dirais, non seulement dans les années 50, quand le flou était le plus visible, si vous voulez, mais aussi dans les années 60. C'est-à-dire bien après qu'on avait décidé de faire une bombe atomique, donc c'était légitime, entre guillemets, que Marcoule produisait ce plutonium militaire. Donc, il y a deux manières de conception d'une bombe atomique. Une version qui utilise le plutonium et l'autre version qui utilise l'uranium hautement enrichi. Et donc, dans les années 60, la France a construit une usine d'enrichissement. Et à partir de là, elle a aussi commencé à produire des bombes à l'uranium enrichi plutôt que des bombes au plutonium.
When the proper voltage was reached, the nuclear power was sent into the distribution lines. Electricity from atomic power was a reality.
Atome pour la paix, c'est l'annonce par Eisenhower qu'il fournira au monde entier, à qui le voudra, des réacteurs pour faire de l'électricité. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est évidemment pour faire du business, mais c'est aussi pour imposer une filière qui n'est pas duale et qui ne permet pas de faire du plutonium militaire, de qualité militaire. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pour la paix. Parce que ça limite ou ça retarde la prolifération. Et ça a marché, hein. On peut considérer qu'il y avait beaucoup de pays qui avaient pensé à faire la bombe, l'Argentine, la Suède, on avait beaucoup, et ils ont renoncé. Ils se sont rendus compte que les Américains, politiquement et industriellement, avaient pris des mesures pour finalement arriver à leur fin, c'est-à-dire empêcher la prolifération. Se fâcher avec les Américains en position dominante, c'était pas une très bonne idée.
Toutes les fournitures de technologies nucléaires et notamment les réacteurs de recherche qui ont été les premiers équipements assez massivement distribués, c'est toujours fait de façon extrêmement contrôlée.
Dominique Lorenz.
À aucun moment, les détenteurs de ces technologies, qui sont donc d'une part les Américains, d'autre part les Soviétiques, ne vont prendre le risque de diffuser des technologies d'une façon non contrôlée qui pourrait ensuite faire émerger un concurrent militaire. Donc ça n'arrive pas. La prolifération, c'est quelque chose qui a été fait par des États qui contrôlaient tout à fait ce qu'ils faisaient. Quand les Américains installent, par exemple en Iran, un réacteur de recherche, déjà il y a des scientifiques américains qui sont installés à demeure pour former des scientifiques iraniens, mais c'est valable avec n'importe lequel de leurs alliés à qui ils ont fourni ce type d'équipement. Ils ne vendent pas le réacteur de recherche en pièces détachées en disant « bon écoutez, on se reparle dans 5 ou 10 ans ». Non. Dans le cas de l'Iran, dès les années 50, à la demande des Américains, les Français vont aussi, à partir de 56, eux aussi former des scientifiques iraniens qui vont donc venir en France. Et puis il y a des échanges ensuite. Les pays, quand ils sont dans une coopération sur un sujet aussi sensible, il y a évidemment des liens très étroits qui se tissent.
C'est vrai qu'Atom Swarpy, ça bénéficie à des tas d'États, y compris des États non alliés, au sens pas des États de l'OTAN, et donc c'était pas du tout fait dans une optique de les aider à avoir l'arme nucléaire, pas du tout, hein. C'était vraiment l'inverse. Et cette notion de contrôle américain sur les technologies qui sont offertes, qui sont proposées, elle est très importante, et elle se double d'une notion de contrôle international, puisque c'est aussi à cette période-là, en 1957, que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, va être instituée pour justement s'assurer que les programmes nucléaires civils des différents pays ne dissimulent pas des programmes militaires.
L'idée, au départ, c'était d'encourager une coopération atomique entre les États du point de vue civil. Et, alors ça, c'est l'idée scientifique avec un peu de prestige. L'idée aussi, c'était de faciliter les ventes. Et donc, quand on regarde, par exemple, les premiers congrès de l'AIEA, on dit « Ah, voilà, c'est la coopération nucléaire, atomique, qu'est-ce que c'est bien, vous voyez qu'on peut faire ça. » Mais qu'est-ce que les gens sur place font? Ils vont regarder les techniques des autres. Bon, est-ce qu'on peut acheter ici? Est-ce qu'on peut acheter là? La présence de la France, c'est « Regardez nos belles techniques nucléaires, vous voulez pas les acheter ?» etc. Donc, c'est un mécanisme aussi, comme le traité de non-prolifération, c'est un mécanisme qui fait des inspections, mais surtout qui facilite la diffusion et la vente des technologies nucléaires. On fait des affaires.
Alors, on peut se souvenir que quand il prend ses fonctions, le président Kennedy s'inquiète et estime que si ça continue, dans 10 ans, il y aura 25 pays qui auront l'arme nucléaire, etc. Donc, il y a quand même une crainte, en effet. Alors, elle est liée au fait que les deux premiers à s'être lancés dans l'aventure, hein, États-Unis, Union soviétique, ensuite, le Royaume-Uni a suivi, après, la Chine, qui constitue quand même un traumatisme un peu à la fois aux États-Unis, mais aussi en fait en Union soviétique, hein, qui a d'abord aidé la Chine à acquérir des technologies, et ensuite s'en est inquiété en ayant notamment peur que la Chine les entraîne malgré eux dans une guerre nucléaire, et donc en se disant finalement, nous on veut contrôler, si on se lance un jour dans une guerre nucléaire contre les États-Unis, ce sera notre décision, ce sera pas la décision d'un pseudo-allié, etc. Donc ça crée vraiment une inquiétude à Moscou. Il y a un certain nombre d'autres États qui s'intéressent à ces technologies. Alors, en Europe, beaucoup de pays ne prennent pas vraiment de décision, mais acquièrent des capacités d'enrichissement. S'ils prennent la décision d'aller vers l'arme nucléaire, les choses seront relativement aisées. On peut penser, par exemple, à la Suède, la Suisse, qui ont développé des programmes assez poussés. On a bien sûr l'Inde avec le Pakistan, j'oublie en Asie, Taïwan, la Corée du Sud, vont avoir des programmes aussi assez avancés. En Amérique latine, on a des pays qui regardent d'assez près, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud un petit peu plus tard. Ça ne veut pas dire qu'à cette époque, il y a 25 pays qui ont décidé de se doter de l'arme nucléaire. Ça veut plutôt dire qu'à cette période, il y a 25 pays qui n'ont pas renoncé à s'en doter. En tout cas, qui se disent « on va regarder comment les choses évoluent et on prendra une décision ».
Il n'y a aucun État doté aujourd'hui qui dispose de l'arme nucléaire sans l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité, des Nations Unies et
Benoît Pelopidas.
D'un autre côté, aucun de ses membres permanents n'a les mains intégralement propres en termes de prolifération. Mais en plus de diffuser la technologie, il faut bien mesurer qu'on diffuse la désirabilité de cette technologie. Et quand on parle de politique nucléaire, on a tendance à en parler en termes binaires entre prolifération et désarmement. Et quand on parle prolifération et désarmement, on l'occulte, on invisibilise une troisième attitude qui est simplement l'absence d'intérêt pour ces systèmes d'armes. Et donc face à cette absence d'intérêt, moi j'ai pu la documenter pour au moins 143 États, donc la grande majorité des États. Mais vous voyez bien que si on dit publiquement, alors nos armes nucléaires sont des garanties nécessaires de la souveraineté, de la sécurité nationale, elles sont parfaitement sûres et peu chères. Comment vous faites en disant ça pour avoir une politique de non-prolifération crédible? Parce que si ce que vous dites sur votre propre arme est vrai, alors il faut donner ces choses-là à tout le monde.
1er juillet 1968, je les avais prévenus. Plus on est de fous, moins on risque de s'amuser. Il était temps qu'ils s'inquiètent. Mes 5 parents se sont réunis aujourd'hui lors d'un conseil de sécurité exceptionnel. Ils ont fait comprendre aux autres qu'il n'y avait plus de siège disponible au club, que c'était un club fermé. Ils peuvent bien essayer d'entrer par effraction, ils n'auront pas de siège pour s'asseoir. Ils resteront debout tout le temps sans pouvoir parler. C'est fermé. Moi, je suis soulagée. La prolifération, il faut savoir l'arrêter, a dit le président du Club des Cinq. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Cela dit, je doute que cela dissuade certains. L'idée du club de leur faire signer un contrat pour qu'ils attendent sagement dehors, quitte à leur payer le chauffage et l'électricité pour patienter, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée, mais je suis bien placé pour savoir que certains vont vouloir rentrer, coûte que coûte.
John Fitzgerald Kennedy, discours sur la paix. 10 juin 1963.
That is the most important topic on Earth. Peace.
Il s'agit du sujet le plus important sur Terre, la paix. De quelle paix s'agit-il? Quel type de paix recherchons-nous? Pas une Pax Americana imposée au monde par les armes de guerre américaines. Je parle donc de la paix comme un aboutissement nécessaire et rationnel que doivent envisager des hommes rationnels. J'ai conscience que cette quête n'est pas aussi spectaculaire que la démarche guerrière et que souvent les défenseurs de la paix ne sont pas entendus. Pourtant, nous n'avons pas de tâches plus urgentes devant nous.
Le TNP, c'est un enfant de la crise des fusées de Cuba, un moment où l'humanité a vraiment failli franchir le seuil de l'entrée dans la guerre nucléaire, dans la guerre mondiale. On est passé vraiment au bord de l'abîme et tous les protagonistes, sauf peut-être Castro, avaient tiré les conclusions qui s'imposaient. Il ne fallait pas recommencer, que c'était vraiment trop dangereux. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver les premiers accords de désarmement, limitation des armements, l'arrêt des essais nucléaires dans l'atmosphère, le début des négociations sur les armements stratégiques entre les États-Unis et l'Union soviétique, et le lancement en négociation du processus qui va déboucher sur le TNP.
Mr. President, Mr. Secretary, Your Excellencies, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is now ready to be signed.
Le TNP, traité de non-prolifération, qui est aujourd'hui considéré comme vraiment le traité le plus important dans le domaine de la maîtrise des armements et de la non-prolifération, c'est tout d'abord une idée d'un tout petit pays, à savoir l'Irlande, qui va proposer ça dans le cadre des Nations Unies, avec son ministre des Affaires étrangères, Frank Aiken, qui va expliquer différentes résolutions année après année. Et la logique qui vraiment va finir par faire consensus, cette logique c'est la suivante, les armes nucléaires c'est dangereux, ça peut provoquer de l'instabilité. Si deux pays en ont, ils peuvent peut-être stabiliser leurs relations. Si on commence à multiplier le nombre d'acteurs, ça devient ingérable et tôt ou tard, on va avoir une explosion nucléaire, on va pas pouvoir contrôler les choses. Il va même un petit peu plus loin et je pense que c'est cette idée-là qui va être reprise par les grandes puissances et c'est pour ça que le TNP va avoir autant de succès. L'idée, c'est que si des grandes puissances ont l'arme nucléaire, elles ont aucun intérêt à s'autodétruire. En revanche, il n'est pas exclu qu'une petite puissance révisionniste, etc., soit beaucoup plus aventurière et considère avec beaucoup moins d'effroi l'idée d'utiliser l'arme nucléaire. Et donc, on peut tolérer à la limite que pour l'instant l'Union soviétique et les États-Unis aient l'arme nucléaire. C'est une situation qui a l'air d'apprésenter une certaine stabilité. Mais si on commence à avoir des dizaines d'autres États, ce sera ingérable.
Le traité de non-prolifération a été une tentative très importante pour instaurer un ordre nucléaire dans les années 1960 et 1970.
David Holloway.
Ce n'était pas dans l'intérêt des États-Unis et de l'Union soviétique que d'autres pays disposent de la bombe. Cela est clairement explicité dans certains documents américains liés à la question de la non-prolifération. Parce qu'après tout, les États-Unis étaient présents militairement un peu partout dans le monde. Et il était évident que si d'autres pays disposaient de l'arme nucléaire, cela entraverait leur pouvoir. L'Union soviétique n'était pas aussi présente militairement dans le monde. En tout cas, pas de la même façon. Mais au moment des négociations du traité de non-prolifération, le TNP, en 1968, l'Union soviétique était très inquiète, à cause de la Chine, bien sûr, mais surtout de l'Allemagne de l'Ouest. Il ne fallait pas que les Allemands puissent mettre la main sur la bombe. Ni l'Union soviétique, ni les États-Unis ne voulaient voir d'autres pays posséder l'arme nucléaire. Même si finalement plusieurs États s'en sont dotés, notamment les trois États non signataires du TNP, à savoir Israël, l'Inde et le Pakistan. Les États-Unis ont préféré fermer les yeux et accepter de se laisser berner.
Les deux articles fondamentaux, c'est le 1 et le 2, sur la non-prolifération, qui vont d'une part interdire aux États qui n'ont pas d'armes nucléaires d'en développer.
Emmanuel Maître.
De l'autre, interdire aux États qui ont des armes nucléaires de fournir des armes nucléaires à des États non dotés. C'est la terminologie du traité. Et on voit bien que c'est à la fois un traité par lequel s'engagent tous les États qui n'ont pas d'armes à ne pas en développer, mais c'est un traité qui s'adressait vraiment aux grandes puissances. Et donc les États-Unis disaient à l'Union soviétique « Vous ne fournirez pas d'armes à vos satellites ou à vos États partenaires, et nous, on s'engage, on ne donnera pas d'armes aux Allemands, aux Japonais, etc. » Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, évidemment, il faut convaincre les États non dotés de garder ce statut qui leur est potentiellement défavorable, puisqu'on instaure deux catégories d'États, les États dotés, les États non dotés. C'est quand même peu fréquent d'avoir un traité qui a deux classes d'États comme ça. Donc forcément, il faut une incitation. L'incitation principale à l'époque, c'est l'assistance, la coopération dans le développement des usages pacifiques du nucléaire. Et donc, les États qui rejoignent le TNP vont être assimilés et vont participer avec l'AIEA à différents programmes de coopération et vont avoir un accès facilité aux technologies nucléaires civiles.
India conducted its first nuclear test in Pokhran, codenamed Operation Smiling Buddha. With this, India had entered the League of Nations with nuclear capabilities.
Nous sommes heureux, nous sommes fiers. Dans la bouche de tous les villageois, on retrouve les mêmes phrases. L'explosion de cette charge est à l'évidence un puissant stimulant moral. Les Indiens, longtemps écrasés par leur situation, trouvent là l'occasion de relever la tête sous la frise de chauvinisme. Ce chauvinisme aidera le gouvernement à redorer son blason et par conséquent à renforcer le prestige des dirigeants vis-à-vis d'un peuple souvent désabusé.
Très clairement, le TNP a quand même été un succès, hein, parce que si on regarde tous les pays qui avaient des technologies, des velléités ou des incitations réelles de développer des programmes nucléaires dans les années 70, le fait que seulement 4 soient passés à l'action, c'est plutôt positif. Cette norme, elle a notamment ensuite engendré d'autres initiatives, comme les zones exemptes d'armes nucléaires, en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Donc ça a créé la confiance nécessaire en signant le TNP, en signant la zone exempte d'armes nucléaires et en créant leur propre système bilatéral d'inspection. L'Argentine et le Brésil ont réussi à créer la confiance nécessaire pour faire en sorte que ni l'un ni l'autre des pays ne développent de système nucléaire. Je veux dire, la plupart des États ont intériorisé cette conviction, ce qui n'était pas évident dans les années 70. Il vaut mieux tous renoncer que tous développer. Je comprends que si tout le monde l'a, là, ma sécurité ne sera plus assurée. Cette logique, encore aujourd'hui, même pour des États qui critiquent fortement le traité, elle est encore partagée très très largement par ses États membres, et donc c'est pourquoi je pense qu'on peut vraiment parler de succès.
Docteur Setna, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer quelle différence existe-t-il entre une explosion à caractère pacifique et une explosion à caractère, dirais-je, militaire.
Vous savez, monsieur, si vous avez un couteau, on peut utiliser ce couteau pour couper du viande ou des légumes. Ou on peut utiliser ça pour tuer un homme.
L'expérience nucléaire auquel vous avez procédé ne peut servir en aucun cas à des visées guerrières, dirais-je.
Pas du tout avec les choses que nous avons faites. Alors, on peut changer, mais on ne voulait pas changer.
Au moment de la signature du TNP, on a 5 États qui ont effectué des essais nucléaires, qui sont vraiment des puissances nucléaires. Israël, c'est un cas très particulier parce qu'elle travaille sur son programme pendant cette période-là, mais étant donné qu'elle n'a jamais revendiqué officiellement avoir l'arme nucléaire, on ne peut même pas aujourd'hui réellement la considérer comme une puissance nucléaire, elle n'a jamais effectué d'essais nucléaires. Donc voilà, en 68, on est vraiment à 5. Aujourd'hui, on est à 9. Avec justement Israël, Inde et Pakistan. Inde, l'essai nucléaire date de 1974, le premier. C'est plutôt une explosion nucléaire pacifique. C'est vraiment à partir de 1998 que l'Inde, suivie de très près du Pakistan, va réaliser un véritable essai nucléaire militaire. Le cas de la Corée du Nord est intéressant, puisque la Corée du Nord avait signé le TNP. Mais pour beaucoup de pays, notamment européens, la manière dont s'est retirée la Corée du Nord est illicite, et donc ils considèrent qu'elle est encore tenue par ses obligations au sein du TNP. S'il suffit d'être dans le traité pour acquérir les technologies et s'en retirer et ensuite fabriquer l'arme, la logique du traité est complètement dévoyée.
Un autre traité viendra plus tard dans les années 90 pour interdire les essais nucléaires qui continuaient à être pratiqués et qui ont été le moyen pour des pays du seuil de passer du seuil au statut de puissance nucléaire révélée.
Dominique Lorenz.
Mais pas forcément reconnue, puisque les 5 grands ne souhaitaient pas élargir le cercle des puissances nucléaires officielles. Je pense là, bien sûr, à l'Inde et au Pakistan, qui ont effectué des essais nucléaires rendus publics, de façon à faire la démonstration de leur puissance, mais qui n'ont pas été reconnus comme puissance nucléaire parce que les 5 grands, qui sont les 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont aussi les 5 puissances nucléaires officielles, ont dit « bah non, ça nous embarrasse, y a l'Inde et le Pakistan, et oui, ils ont fait des essais nucléaires, ce sont des puissances nucléaires, mais on va quand même faire comme si on n'avait rien vu ». Donc l'Inde et le Pakistan ont un statut officieux. C'est-à-dire que n'importe qui, faisant le compte des puissances nucléaires, est bien obligé de les prendre en compte, mais ils ne font pas partie du Club des Cinq.
28 mai 1998, le Pakistan procède à ses premiers essais nucléaires dans le désert du Baloutchistan. Islamabad fait une entrée fracassante dans le club très fermé des États nucléaires, salué par le Premier ministre Nawaz Sharif et célébré dans les rues. Mais déjà, l'écho de cette bombe dépasse largement les frontières du Pakistan aux yeux de cet ancien chef des services secrets.
C'est une bombe islamique. Faites-le savoir au monde entier, car les musulmans en sont fiers. C'est une bombe islamique.
Une des raisons pour lesquelles peu de gens se sont réjouis de voir le Pakistan développer l'arme nucléaire, c'est que ce pays a été ensuite impliqué dans des scandales de prolifération assez inédits. Alors, il y a eu, on va dire, des choses qui relevaient plutôt du fantasme, et puis il y a la réalité. Le fantasme, c'est de dire le Pakistan est le premier État musulman à avoir l'arme nucléaire. Alors, on parlait à l'époque de bombe islamique, comme si cette bombe, elle va pouvoir être mise à disposition de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays s'ils sont en tension avec d'autres États. Il se trouve que le Pakistan, en tant qu'État, n'a manifestement jamais vendu ni donné leur arme nucléaire à aucun autre pays musulman. Mais en plus, il semblerait que vraiment l'arme nucléaire pakistanaise rentre dans une logique purement bilatérale de leur relation avec l'Inde et que ce soit pas du tout dans une logique de grande communauté islamique.
Abdul Qadir Khan, le scientifique le plus adulé du Pakistan. Humiliation aujourd'hui du père de la bombe, il vient demander solennellement pardon à la nation pour avoir vendu ses secrets nucléaires.
Je veux qu'il soit clair que le gouvernement n'a jamais, en aucune sorte, autorisé cette prolifération. Je revendique la totale responsabilité de mes actions et demande votre pardon.
En revanche, le fait que le père fondateur du programme pakistanais ait été impliqué dans un programme de prolifération particulièrement poussé, ça a vraiment décrédibilisé le pays et ça a vraiment suscité des inquiétudes réelles. Donc, Abdul Qadir Khan, donc c'était un ingénieur pakistanais qui a fait ses études aux Pays-Bas. C'est là où il a appris les technologies de centrifugation de l'uranium, qu'il a ramené dans ses bagages au Pakistan et donc il a lancé la filière d'enrichissement de l'uranium au Pakistan. Et donc, c'est à ce titre qu'il a été considéré comme vraiment un héros national, puisque c'était lui qui avait permis d'obtenir cette fameuse matière fissile, hein, donc et de développer de l'uranium enrichi. Il a fourni, contre rémunération monétaire, des informations liées à l'enrichissement. Il a lancé une sorte de grand Amazon Market sur les technologies d'enrichissement et les technologies nucléaires, avec des prototypes et des documents qui se sont retrouvés en Libye et dans un certain nombre d'autres pays proliférants dans les années 90. Donc ça a évidemment ému la communauté internationale. Le Pakistan a réagi en indiquant qu'ils étaient absolument pas au courant des agissements du dénommé Khan, qui a été mis en résidence surveillée. Voilà, le Pakistan a toujours rejeté être impliqué ou avoir connaissance au plus haut niveau. Du coup, ça a suscité l'inquiétude en se disant ce pays-là peut donner la technologie à 2, 3, 10 autres, etc. Et donc là, ça devient beaucoup plus difficile de contrôler le nombre d'acteurs ayant des armes nucléaires.
La technologie nucléaire pakistanaise, vendue à la Corée du Nord, à l'Iran, à la Libye, sans l'aval des plus hautes autorités du pays, cette version semble peu crédible aux experts. Scepticisme aussi de la population. Les familles de scientifiques manifestent publiquement pour dénoncer la manipulation. Mais grâce à son explication officielle, le Pakistan espère échapper à une condamnation internationale infamante. Une fois de plus, le père de la bombe est un bon soldat. Il porte le chapeau avec dignité.
Nous vivons dans un monde où un ordre nucléaire a été créé grâce au contrôle des armements, au traité de non-prolifération, et je crois aussi grâce à des normes informelles liées aux armes nucléaires. Mais il y a toujours des États, notamment des grandes puissances, et certains États dits orphelins, qui veulent en posséder. Les grandes puissances veulent des armes nucléaires comme symbole de pouvoir et de puissance militaire. Et d'autres États veulent accéder à cette puissance car ils sont isolés. Si on regarde la composition du monde nucléaire depuis la fin de la guerre froide, il y a l'Inde et le Pakistan qui ont mené des essais nucléaires. L'Afrique du Sud, qui l'a abandonné, Israël, qui en est doté, tout comme la Corée du Nord. Donc, 9 pays au total, soit 2 fois plus qu'à la fin de la guerre froide. Le rythme de la prolifération n'a pas été soutenu. Ce sont surtout de grandes puissances qui possèdent l'arme nucléaire. Et puis, des pays comme Israël, entourés de voisins hostiles. Le Pakistan n'est pas vraiment un État orphelin, mais il a été comparé à Israël, car il est entouré par l'Inde et la Chine. Et puis enfin, la Corée du Nord a réussi à fabriquer des armes nucléaires.
sans doute l'État le plus isolé et le plus autoritaire du monde. En 1945, c'était la plus grande puissance qui avait conçu l'arme nucléaire. Aujourd'hui, c'est cet État paria qui est le dernier en date à en avoir fabriqué une. Ainsi, ce sont les grandes puissances, aux côtés d'un petit groupe de puissances plus petites et isolées, qui ont fabriqué des armes nucléaires.
Mars 1970. Ça y est. Le contrat a été signé. Le Club des Cinq est définitivement fermé. Les autres auront beau tambouriner, ils devront rester derrière la porte. Mes parents chinois et français n'ont pas voulu signer. Ils ont dit qu'ils respecteraient l'esprit du contrat pour ne fâcher personne au club, mais bon, ils ne signeront pas. Ils prétendent que c'est trop tôt. Ma version française et chinoise n'est pas tout à fait au point. Ils ont encore besoin d'aide, de recevoir des leçons de parents plus expérimentés. Il faut les comprendre. Ce sont de jeunes parents.
Donc, au départ, lorsqu'une puissance devient nucléaire, elle est proliférante et elle va travailler à des degrés divers avec des pays qui ont déjà la bombe. C'est consubstantiel. Et souvent,
François Hesbourg,
c'est la dynamique de l'acquisition qui va nourrir le caractère proliférant du nouvel État nucléaire. Le Pakistan, par exemple, chacun aura en mémoire le fait que le Pakistan, ce n'est pas un pays très riche. Alors, les Chinois qui vont les aider avec des contreparties stratégiques. Mais une fois que les Pakistanais ont la bombe, ils vont continuer à proliférer. Ils vont aller chez les Iraniens leur vendre les premières centrifugeuses parce que le programme nucléaire pakistanais, le programme de missiles pakistanais a besoin d'argent avec la Libye et ainsi de suite. Les Indiens vont acquérir la bombe parce qu'ils vont travailler avec les acquis du programme Atomes pour Paix, Atoms for Peace, en détournant des réacteurs d'origine américaine et canadienne qui vont servir à conduire les premiers essais nucléaires indiens. La France, elle, tout d'un coup, se découvre à la tête d'une base militaro-industrielle nucléaire tout à fait remarquable, puisqu'on a effectivement su fabriquer la bombe par les deux filières, l'uranium enrichi, le plutonium, on a bâti des installations, on a formé des équipes. Du coup, on a voulu s'en servir comme des instruments de gain économique et gage de bonnes relations avec des pays. On va aider les Indiens, non pas à faire leurs bombes, là pour le coup la France n'a pas fait les mêmes bêtises involontaires des Américains et des Canadiens, mais de fait est qu'à partir des années 60, la France va aider l'Inde dans ses programmes nucléaires génériques. Il y avait de l'argent à se faire, il y avait de bonnes relations à établir. Et pendant les années 50, on aide les Israéliens à construire leur propre infrastructure nucléaire, civile et militaire, la fameuse centrale de Dimona. Donc, premier exercice de prolifération dans les deux sens, si je puis dire. Et puis, au bout de quelques années, les Français finissent par se rendre compte que, un, c'est peut-être pas très prudent, parce qu'on n'a évidemment aucune maîtrise sur ce que les pays partenaires vont faire avec leur savoir-faire. Israël, à partir de 67, les Français et les Israéliens sont bisbis. L'Inde va se trouver en guerre avec le Pakistan, faut choisir, c'est compliqué.
La France, comme d'autres États européens, a eu des intérêts commerciaux à fournir des technologies nucléaires. Et dans les années 70, je dirais assez malheureusement, les États européens ont été plutôt dans une logique de compétition commerciale et donc de plus faible dénominateur, c'est-à-dire on vous fournit le maximum de choses pour gagner des marchés, notamment dans des États du Moyen-Orient ou dans d'autres, avec peu de considérations stratégiques, ou en tout cas, ça communiquait mal. La partie intérêt stratégique, on n'avait sans doute aucun intérêt stratégique à ce que l'Irak développe du nucléaire militaire. Ça n'a jamais été notre politique. Mais cette préoccupation stratégique n'arrivait pas à du tout freiner les ardeurs commerciales de s'implanter sur des marchés, développer nos filières nucléaires, etc. Et comme les Hollandais, les Allemands, etc. faisaient la même chose, c'était un petit peu une course à l'échalote de qui vendrait le plus de technologie. Et donc ça a été forcément très mal perçu à Washington. On s'est fait taper sur les doigts, on a réalisé que certaines transactions ont été porteuses de risques et donc ne servaient pas nos intérêts.
Et sous Giscard, alors là pour le coup c'était vraiment une initiative de président Giscard d'Estaing, une fois que Chirac cesse d'être Premier ministre, Giscard va mettre en place les outils qui vont permettre de cadrer les éventuelles exportations de technologies et de savoir-faire nucléaire par la France. Et Mitterrand va en rajouter une couche et en rejoint le traité de non-prolifération à peu près au moment de la chute du mur. Mais il faut du temps. C'est ce qu'on peut appeler l'apprentissage nucléaire. Dans le cas de la France, ça s'est pas trop mal passé, mais on a frôlé la catastrophe. C'est vrai que quand Saddam Hussein a acheté aux Irak, c'était pas fleurimichon, comme on dit parfois. Dans l'équipe Mitterrand, je faisais partie, on a tous respiré plus librement quand les Israéliens ont détruit ce réacteur qui a été fait par les Français, qui a été vendu par les Français du temps de Chirac, Premier ministre de Giscard. C'est un truc à ne pas faire. Sur l'Iran, elle avait commencé à travailler sur deux réacteurs nucléaires basiques, commerciaux.
1986, une vague d'attentats frappe Paris. Au Liban, des Français sont tenus en otage. Et le PDG de Renault, Georges Besse, est assassiné. Selon le chercheur Dominique Lawrence, il existait un lien commun à tous ces événements.
Évidemment, les autorités françaises n'ont pas expliqué au grand public que l'enjeu de toute cette violence, c'était la future arme nucléaire de l'Iran. C'est la face cachée de l'affaire Rodif.
La France signe avec l'Iran un contrat pour le développement en commun d'une usine d'enrichissement de l'uranium. Uranium nécessaire pour la production des armes atomiques abritées par ce programme. Ce dont ne se cache pas le Shah d'Iran qui, au moment où tous les contrats sont signés en 1976, au moment où tous les accords sont signés, mis sur des rails, déclare que l'Iran sera dans les 5 à 10 ans la cinquième puissance militaire mondiale et qu'il aura sûrement la bombe atomique et qu'on ne voit pas très bien qui pourrait le lui reprocher puisqu'il y en a d'autres. On est au moment aussi du premier essai indien. Le Shah d'Iran revendique le programme nucléaire qui en fait est abrité par son programme lancé au prétexte d'application civile. Mais bien mal lui en a pris, puisque les Américains décident de le renverser. Pendant que l'Iran sombre dans la guerre civile, le Shah finit par partir. L'ayatollah Khomeini rentre en Iran dans un avion Air France. Les ayatollahs donc, s'installent au pouvoir.
Les responsables français vont être informés en 1979 de la dénonciation de l'accord nucléaire par les nouvelles autorités, puisque les nouveaux dirigeants révolutionnaires vont considérer que tous les traités, tous les accords commerciaux dans le domaine du nucléaire qui ont été signés par l'ancien régime, le régime du Shah d'Iran, doivent être dénoncés au nom de l'anti-impérialisme, puisqu'il s'agissait, selon les révolutionnaires iraniens, d'une manipulation occidentale pour exploiter gratuitement les richesses des pays du tiers-monde. Mais sur le plan juridique, cette dénonciation n'est pas valable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter un contrat de manière unilatérale sans respecter les procédures, tout en espérant récupérer ses investissements. Et donc c'est pour ça qu'il y aura un règlement politique qui sera effectué à la fin des années 80 par Roland Dumas. Mais cela donnera lieu à des prises d'otages, notamment de journalistes français dans les années 80 au Liban, la participation française à la guerre Iran-Irak aux côtés du régime de Saddam Hussein. Donc ce contentieux nucléaire va, dans les années 80, conduire à une escalade et même à la guerre entre les ambassades en 86-87.
Alors, le volet financier, donc les Iraniens avaient prêté $1 milliard à la France pour financer cette usine Rodif. À partir du moment où La France et l'Iran ont été en conflit. La France a suspendu les versements qui ont été immobilisés sur un compte bloqué dans l'attente d'un règlement du litige. Le milliard de dollars, c'est anecdotique. L'enjeu stratégique, c'était l'enrichissement de l'uranium. Cette technologie, maîtrisée uniquement par des puissances nucléaires et donc officielles, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ça a été un conflit qui s'est réglé par un accord signé au début des années 90 et que François Mitterrand a décidé de couvrir du secret, c'est officiel. Hein. Mais on sait que l'Iran avait été rétabli dans son statut d'actionnaire de cette usine d'enrichissement de l'uranium. Donc tout ça pour dire que les Occidentaux ont fait preuve d'une très grande légèreté dans cette affaire.
Nouvel attentat sanglant en plein Paris. Une bombe jetée d'une voiture devant le magasin Tati vers 17h30 cet après-midi a fait au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés, dont 11 sont grièvement touchés.
Là, on est dans l'horreur. On est dans l'horreur financière et terroriste. Les Iraniens ont demandé ce qu'on les rembourse. Le recouvrement de fonds, quand ça passe par voie d'huissier, c'est désagréable, mais personne n'en meurt. Les Iraniens n'étaient pas des huissiers, les Iraniens soutenaient des groupes terroristes. Et on s'est trouvé à Paris avec des assassinats divers et variés, dont les Parisiens ont fait les frais.
Ce que je peux vous dire, c'est que sur place, nous avons vécu l'horreur. Nous sommes arrivés quelques minutes seulement après que la bombe ait éclaté. J'ai vu plusieurs personnes très gravement blessées évacuées. C'était absolument terrible.
Alors, je ne sais pas si M. Bess avait été assassiné à cause de Rodif, par action directe.
Hervé, le Premier ministre, M. Chirac, a convoqué le Conseil de sécurité intérieure qui réunit les principaux ministres concernés par la lutte contre le terrorisme il y a un instant.
Mais on ne peut pas s'empêcher de se poser la question.
Hier, j'ai assisté à une réunion importante avec tout le monde. On a rediscuté du traité. Ça a râlé sec contre le club des 5 parents. Je me suis fait toute petite. Ils disent que le club s'était engagé à me faire disparaître à petit feu, qu'ils n'ont rien fait depuis 25 ans. Ils disent aussi qu'à Pretoria, on a démantelé la totalité d'une créature. Ça fait désordre vis-à-vis du club qui ne fait pas le moindre effort. Ils n'ont pas tort. J'ai 50 ans. Je me suis désintégré 2400 fois. J'ai parcouru tout l'hémisphère nord et bien au-delà. C'est peu dire que j'éprouve une forme de lassitude. La guerre froide est terminée. Il serait peut-être temps que je les touche, moi aussi. Les dividendes de la paix, comme ils disent au club. Après tout, puisqu'ils prétendent que j'y suis pour quelque chose, ils pourraient me verser un petit pécule. Je pourrais souffler un peu. Je l'ai bien mérité.
Et puis, il y a quelque chose qui va être introduit un petit peu subversivement à l'époque par différents États. Alors, plusieurs en revendiquent la paternité, mais on parle notamment du Mexique, de l'Égypte ou d'autres États qui vont insister pour qu'il y ait quand même dans ce traité un article sur le désarmement. L'article 6, les États s'engagent à se lancer de bonne foi dans des négociations visant à aboutir au désarmement général et complet. C'est un article qui invite à négocier de bonne foi, donc on peut interpréter ça de manière très très large. En 1995, on arrive à l'expiration du traité et les États doivent prendre une décision. On va aboutir à un accord de la communauté internationale avec une prorogation indéfini du traité, du TNP, et on voit qu'une grande partie des États qui n'ont pas d'armes nucléaires vont insister pour qu'il y ait beaucoup plus d'efforts de fait, et qu'au lieu de considérer ça comme un vague appel à négocier, à essayer de se mettre d'accord sur le désarmement, il y a une lecture collective de cet article 6 qui en fait plutôt comme une obligation, et on doit aboutir à terme à une situation d'élimination des armes nucléaires. Aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'il y a trois piliers qui ont finalement, dans l'interprétation, après 50 ans, sont devenus des piliers égalitaires, quasiment, au sein du régime, non-prolifération, désarmement et usage pacifique du nucléaire.
Des choses ne vont pas rester dans l'état où elles sont miraculeusement restées dans le domaine nucléaire depuis 1968, c'est-à-dire avec un traité de non-prolifération qui a, en l'occurrence, plutôt bien rempli son office. Imparfaitement, insuffisamment, et avec quelques difficultés, mais ça a marché. Là, je crains qu'on arrive en butée, d'autant plus que toute une série de pays du Sud, global, comme on dit maintenant, considère, et à juste titre, que les puissances nucléaires établies, celles qui sont reconnues par le traité, n'ont pas fait tout ce qu'elles s'étaient engagées à faire en matière de désarmement nucléaire dans le traité de non-prolifération. L'article 6, il a été plutôt malmené. Autrement dit, si vous avez un traité de non-prolifération qui est contesté à la fois par la principale puissance nucléaire que sont les États-Unis, menacée par le recours récurrent de la menace nucléaire par l'autre grande puissance nucléaire qu'est la Russie, et marginalisée par une troisième puissance nucléaire qui est la Chine, qui est en train d'étoffer son arsenal à grande vitesse, ça devient de plus en plus tendu, le traité devient de plus en plus fragile. C'est un des très rares éléments de l'ordre international qui a à peu près fonctionné jusqu'à présent et qui n'ait pas été le simple fait du prince à Washington ou du prince à Moscou ou du prince à Pékin. Le jour où le TNP sera mis à mal par l'Iran, si l'Iran franchit le seuil nucléaire, ou si la Corée du Sud, si elle voulait devenir une puissance nucléaire, elle pourrait le faire sans problème majeur. Quant à l'Arabie Saoudite, si jamais l'Iran franchissait le seuil nucléaire, l'Arabie Saoudite en ferait autant. Et à ce moment-là, je ne vois pas le traité de non-prolifération survivre. C'est la loi de la jungle nucléaire.
Nuclear weapon.
Le nucléaire au risque de la prolifération. Avec Sébastien Philippe, David Holloway, Yves Lenoir, Benoît Pélopidas, Emmanuel Maître, François Hesbourg, Dominique Lorenz, Clément Terme et Gabriel Hecht. Voix de la bombe, Sarah Chaumette. Avec Laurent Lederer, Laurent Manzoni. Prise de son, Benjamin Thuot, Romain Lenoir, Amandine Grévoz-Frichou et Marie-Claire Oumabani. Mixage Frédéric Changenet avec Pierre Langlais. Archivina, Samia Jedi. Documentaliste, Anne-Lise Signoret et Antoine Huiloz. Traduction, Elie Netquin et Elsa Vitton. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Coordination, Christine Bernard. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Merci à Bruno Charéron, Michel Araquino, Jean-Jacques Delfour et Marc Durin-Valois. Une grande traversée de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez.